Ça va bien ce matin? Oui. Malgré la grisaille, mais c'est pas quand même pas une grosse tempête de neige. Là, on est quand même, on s'est envenu à la chaleur avec des essuie-glaces. Puis oui, il y avait un petit peu de frimo, mais c'est quand même pas pire. Puis le paysage est beau en s'en venant. Il y a juste au Québec qu'on peut voir ça. Je ne veux pas être ailleurs, mais parce que des belles feuilles de toutes sortes de couleurs. Mais maintenant, on va regarder encore quelque chose de plus beau, la parole de Dieu. Mais avant, on va se courber dans un mot de prière. Père éternel, c'est vraiment tout un privilège que nous avons de te connaître, de t'appartenir. On se répète souvent, là, mais de voir un Dieu comme toi, un Dieu éternel, un Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, qui n'a pas besoin de rien, quitter son palais, quitter son royaume, quitter son ciel, servi par des anges, par des archanges, par toutes les dominations, et venir marcher misérablement comme nous, prendre notre place à la croix, mourir pour nous, justement pour des personnes qui avaient tourné le dos. La seule chose qu'on peut dire, on ne peut pas rien dire d'autre que merci. Et ce matin, je veux complètement m'en remettre à toi aussi pour ce message que je vais apporter, qu'on puisse être vraiment attentif, que tu puisses nous parler, toi, par ta parole, et non moi. Que chaque élément de ce passage qui nous concerne, nous, tu puisses faire en sorte qu'on puisse le saisir, qu'on puisse le mettre en pratique. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, je vais sauter d'un épître à l'autre. Et depuis qu'on avait commencé, il y a quelques mois, à regarder des lettres que le Seigneur avait demandé à son serviteur Jean d'écrire aux sept églises d'Asie, on a déjà commencé à regarder quatre de ces lettres. Si vous vous souvenez, à Éphèse, c'est une église qui était pas mal engagée, ça m'a l'air, hein? Il y avait plein d'activités, il y avait plein de programmes, mais ça se faisait sans amour. À Smyrne, une église qui était fidèle, mais qui avait connu la persécution. À Pergame, qui faisait des compromis, qui enseignait la doctrine de Balaam, et Thyatire, qui permettait à une femme, Jézabel, d'enseigner des faussetés dans l'église. Et après avoir écrit à l'église de Thyatire, le Seigneur demande ensuite à son serviteur Jean d'écrire à l'église, à l'ange de l'église de Sardes, qu'on va regarder ce matin. Sardes, ce que j'ai pu voir dans les commentaires, c'était une église qui était très bien située géographiquement, là, puis elle se trouvait à environ 80 km à l'est de Smyrne. C'était une ville qui était vivante, dans le sens qu'il y avait plein d'activités, plein de commerces. Il y avait des teinturiers très prospères, une ville qui était très riche aussi. Un de ces rois qui demeurait à Sardes, Sardes c'était la capitale de la Lydie, la région. Et un de ces rois qui demeurait là s'appelait Crésus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom-là. Hein? Riche comme Crésus. Hein? Bien, ça donne une idée là, de la richesse de cette ville-là et de cette région-là. Et en plus, Sardes était située sur un rocher à 350 mètres de haut. Et par-dessus ce rocher-là, il y avait des palissades, on pourrait dire, là, des renforts en plus pour remonter. Ça faisait en sorte que si un ennemi voulait aller le prendre, fallait qu'il se lève de bonne heure parce qu'il n'y avait aucun moyen de l'atteindre. Et à un moment donné, il y avait un roi qui s'appelle Cyrus. Lui, il voulait conquérir cette région-là. Et là, il était campé là, il attendait. Il s'imaginait d'avoir un moyen de prendre la ville. Un des soldats qui regardait, lui était en bas, là. Il regardait. Et puis, il y avait un garde sur les palissades. Là. Puis, à un moment donné, il se penche, puis son casque tombe en bas. Lui, il n'a pas attendu, il descend en bas par les rochers. Il y avait un genre de petit sentier là, que personne ne voyait. Il remonte avec le casque. Fait que lui, le soldat en bas, là, il prend note de ça. OK. Puis dans la nuit, avec quelques-uns des braves soldats, parce qu'ils ont monté là, et dans la nuit, dans cette même nuit-là, Sardes est tombé. Parce que quand les soldats arrivent en haut, ils sont aperçus qu'il n'y avait aucune surveillance. Non. Pourquoi prendre de l'énergie à surveiller? Qu'est-ce qui est imprenable? Pas pour mettre une armée là en cas. Fait que la ville est tombée à cause d'un manque de surveillance, à cause. Avec le temps, ça a arrivé deux fois, en tout cas en l'espace de 200 ans, ça, la même erreur qu'ils ont faite. Aujourd'hui, cette ville-là n'existe plus. Elle est tombée complètement. Il est arrivé un peu semblable il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Quand que Hamas sont rentrés, ont attaqué Israël. Israël, c'est une armée forte, des renseignements à toute épreuve. Ils se sont laissés endormir. Hamas a attaqué. J'ai trouvé aussi que ça pouvait nous ressembler, nous. Quand tout va bien dans nos vies, là, on baisse la garde, on se croit fort en sûreté. On oublie que l'ennemi est là, il est prêt à venir nous attaquer à tout moment, puis nous surprendre comme un voleur à un moment où on s'en attend le moins. Et c'est ce qui est arrivé. Ça, c'est une histoire qui est arrivée à la ville de Sardes, mais ce qui est arrivé aussi à l'église de Sardes. Et l'auteur de l'Apocalypse semble vouloir établir un parallèle entre le déclin de l'église et celui de la ville elle-même. Et ce qu'on peut voir comme observation se trouve dans Apocalypse, chapitre 3, les versets 1 à 6. Fait qu'on peut tourner dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Si vous avez remarqué, on est juste au début de l'Apocalypse. On n'est pas rendu au chapitre 22. J'ai hâte d'arriver là. Pas nécessairement à l'étudier, mais à le vivre. Apocalypse, chapitre 3, verset 1, ça dit « Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant ton Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende pour entendre, que l'Esprit dit aux sept églises. Et la première observation qu'on peut voir dans ce texte-là ne vient pas de Jésus direct, mais de Jean qui nous informe sur la façon dont Jésus se présente à lui. Un peu comme au chapitre 1 qu'on avait vu là. Il débute au verset 1 en disant « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. » Mais on sait que Dieu est esprit. Hein? Mais est-ce qu'il y a vraiment sept esprits? Je veux dire, on dit le Saint-Esprit, Dieu est esprit, mais là, il parle de sept esprits. Mais comme on dit souvent là, dans l'Apocalypse, les chiffres sont symboliques, puis on sait que le chiffre 7, ça représente la plénitude. L'esprit, on pourrait dire, dans sa totalité, dans sa perfection. Un peu aussi comme les sept églises, comme les sept coupes, les sept chandeliers. C'est pour ça que Jésus s'identifie comme celui qui a les sept esprits. C'est celui que Jésus possède l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Il ne peut pas en avoir plus. C'est le comble de l'Esprit. C'est même lui qui distribue l'Esprit. C'est lui qui baptise les croyants dans l'Esprit. Et Jésus tient aussi dans sa main les sept étoiles, qui sont les sept anges des sept églises. Ça veut dire que Jésus a autorité, c'est-à-dire sur toute l'Église, puis tous ses représentants, toutes ses composantes en entier. Ensuite, le Seigneur nous fait remarquer qu'il connaît ce qu'il connaît, c'est-à-dire de cette Église-là, de Sardes. À la suite du verset 1, il dit, « Je connais tes œuvres, ta conduite. » Puis là, on peut voir encore comme Jésus, comme un peu comme le Père, c'est un être qui était omniscient. Il n'y a rien qui lui échappe. Il connaît tout. C'est un Dieu qui connaît tout, qui est au courant de tout ce qui se passe, non seulement dans l'Église de Sardes, mais dans chaque Église. Ça veut dire qu'il est au courant de tout ce qui se passe ici aussi. Et en plus, il dit qu'il marche au milieu des chandeliers, c'est-à-dire des églises. Il est au courant, pas juste parce qu'il est omniscient, mais il est présent dans son église. Il marche au milieu. Il surveille. Il ne surveille pas pour nous prendre en défaut. Il surveille pour surveiller si on a tout ce qu'il nous faut. Puis l'observation qu'il fait de cette Église nous démontre une chose. Il dit, « Je connais tes œuvres. » Ce qui veut dire, comme on a dit tantôt, que Jésus est au courant de tout ce que nous faisons. Il est au courant des œuvres que nous faisons ici à Bokiam. Et là, les œuvres qu'il observe de cette Église lui démontrent une chose en particulier qu'il mentionne. Et là, il dit, « Je sais que tu passes pour être vivant. » Là, c'est important de dire, il s'adresse à une église, là. Il ne s'adresse pas à une personne. C'est sûr que l'église est composée de personnes, mais là, il s'adresse à l'église. Donc, si cette église-là passait pour être vivante, c'est que sans doute qu'elle grouille d'activité. Quand c'est mort, ça ne bouge pas. Mais cette église-là, sans doute qu'elle grouille d'activité, et qu'elle jouissait aussi d'une très bonne réputation dans la ville, et même dans la région, dans la province. On peut même s'imaginer que les autres églises de cette province-là, la Lydie, étaient en admiration devant cette église-là. « Hey, eux autres, ils l'ont l'affaire. T'as-tu vu ça? T'as-tu vu le groupe de louanges qu'ils ont? T'as-tu vu l'activité qu'ils font? Hey! » C'est béni de Dieu, ça. Probablement qu'il faisait des activités communautaires. Il y avait, comme je viens de dire, une très belle équipe de louanges. Il y avait des beaux cantiques. Il y avait une belle louange. Probablement aussi, là, c'est tout le temps que j'imagine ça, là, parce que ce n'est pas marqué. Il ne faut pas me dire que je fais dire des choses qui n'étaient pas là. C'est pas marqué. Mais moi, je pense, là, en tout cas, je me dis, si hey, cette église-là, elle passe près du vent, il faisait des repas agapés, hein, des repas de communion fraternelle, puis invitait les membres de la communauté, là, la ville. Venez voir, on fait un bon repas. Puis nous autres, on a déjà fait ça. Puis quand on invitait du monde là, de l'extérieur, il y en avait tout le temps. On ne les voyait plus après, là, mais ils venaient. Ils venaient manger. Il y avait des très beaux projets pour l'avenir. Surtout, il ne manquait pas de moyens parce qu'il y avait des... Étant donné que la ville était riche, bien, les gens aussi de l'Église, ils étaient quand même assez riches. Puis à cause de tout ça, bien, il les laissait tranquilles. Il n'y avait pas... On ne voit pas qu'ils étaient persécutés, là. Puis le Seigneur ne leur reproche pas non plus d'enseigner des fausses doctrines. Peut-être qu'il y en avait, mais il n'en parle pas, en tout cas. Mais malgré tout ça, là, malgré tout ça que ce qu'on vient de s'imaginer, le Seigneur il va lui dire, bien, tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire que l'Église n'avait pas la vie de Dieu en elle. C'est pour dire que nos yeux, à nous, là, ça va être facilement sur des apparences. Mais Jésus, lui, il voit en dessous. Il voit en dessous du iceberg. Ces œuvres-là ne faisaient pas partie des bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour nous, pour eux. Ils étaient faits pour leur propre valorisation personnelle. Puis dans leur désir de bien faire, parce qu'il faut dire que c'était pas... Ils ne faisaient pas ça pour mal faire, là. Ils voulaient bien faire, eux autres-là. Là. Mais dans leur désir de bien faire les choses, ils avaient oublié le but de ces œuvres-là, de glorifier Dieu. Les gens qui fréquentaient l'Assemblée, une bonne partie en tout cas, étaient devenus des gens religieux. C'était une habitude. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais avec mon grand-père. À tous les dimanches, on allait à l'église. Il fallait aller à l'église. On était religieux. C'était correct. Il faisait comme un jeu. Il imitait les chrétiens. Il imitait le comportement des chrétiens à être des bonnes personnes, en pensant plaire à Dieu. De cette façon-là, on va plaire à Dieu comme ça. Mais cette Église, on voit qu'elle a... Jésus ne mentionne aucune qualité que nous voyons chez les autres Églises. Et elle fonctionnait un peu à la ressemblance de l'Église d'Éphèse, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de bonnes œuvres, mais... Elle le faisait de ses propres forces, sans amour, sans reconnaissance aussi pour son Sauveur. Et c'est pour ça qu'elle avait perdu cette communion réelle avec le Seigneur et son attachement à la sainte doctrine. En regardant ça, moi, j'étais curieux, on pourrait dire, de voir quelle est la réputation que nous avons ici à Buckingham, parmi la population. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Est-ce qu'ils nous voient comme une église vivante? Mais encore mieux, je me demande, qu'est-ce que Jésus pense de nous? Parce que oui, à Sardes, la population avait des bonnes choses à dire à l'église, mais Jésus, il n'y avait pas tant que ça. Qu'est-ce que Jésus pense de nous? C'est quoi son évaluation de notre église? Puis là, je me demandais, puis là encore là, je vais aller dans mon imagination, comment une Église qui appartient à Jésus-Christ a-t-elle pu en arriver là? Parce que c'est une Église qui appartenait à Jésus-Christ au départ. C'est une Église qui était vivante au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la réponse ne se trouve pas directement dans le texte, mais on peut quand même en tirer une conclusion à partir de ce que le Seigneur dit un peu plus loin. Et là, il dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » Cette Église-là avait entendu la parole. Mais rappelle-toi-en, on dirait que tu as oublié ça. Tu as oublié, là. Comment tu as entendu? Fait que c'est comme si cette église était très accueillante, attirait beaucoup de personnes. Puis ces gens-là, là, ils se sentaient bien dans la présence des chrétiens. Il y avait beaucoup d'amour dans cette église-là. Fait que là, on est resté là. Mais la parole a été négligée. L'Évangile était plus prêché clairement dans toute sa vérité. Puis comme Paul le dit dans Galates, il était passé à un autre Évangile. Il annonçait des bonnes nouvelles, mais il y avait beaucoup de notions dans l'Évangile qui n'étaient pas là. Il y avait un beau culte, c'était agréable. Le monde t'a attiré d'aller régulièrement là, parce qu'ils se sentaient bien entre eux autres. Mais l'Évangile était passé au second plan. La notion du péché n'était plus là. Et là, plus le temps a passé, à un moment donné, il y a certains chrétiens, des vrais chrétiens, qui ont déménagé pour une raison quelconque, soit pour le travail, soit qu'elle est dans d'autres régions. Il y en a d'autres qui sont décédés. Puis là, on pourrait dire que la majorité qui restait dans l'Église n'avait pas connu la nouvelle naissance. Il avait juste resté là parce qu'il se sentait bien, mais il n'avait pas connu la nouvelle naissance. Mais il continuait à imiter le comportement des autres parce qu'il avait aimé ça, se tenir avec eux autres. Fait qu'il continuait à l'imiter. Parce que c'est ça qu'il avait appris. On peut dire que c'est ça qui est arrivé à certaines églises de la Réforme. Parce que là, lorsqu'il y a eu le temps de la Réforme, il y a beaucoup d'églises qui sont devenues vivantes. Puis avec le temps, mais vous le voyez vous autres même, des fois c'est des coquilles vides. Il y a la bâtisse encore là, il y a encore des activités, mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie du Seigneur. Mais comment qu'on peut reconnaître si une église est sur le point de mourir? Comment qu'on peut reconnaître qu'une église est sur cette pente descendance-là? Mais il peut y avoir plusieurs indices, là. J'en ai relevé quelques-unes, mais une chose est certaine, ça n'arrive pas d'un coup, là. Ça s'échelonne sur certains temps. C'est un peu comme la ville de Sardes, c'est un manque de vigilance et un endurcissement, un endormissement graduel et un détachement des choses de Dieu. Les choses de la vie vont prendre le dessus sur les choses de Dieu. Ça se fait que lorsque l'Église commence de plus en plus à se préoccuper de plaire à l'homme au lieu de plaire à Dieu, commence de plus en plus à laisser de côté la gloire de Dieu. Puis là, elle glisse à ce moment-là doucement dans des traditions religieuses. C'est une Église qui veut, en même temps, qui recherche des solutions humaines pour guérir le mal de l'âme de la société. Puis elle en oublie la chose la plus importante, la solution de Dieu pour guérir. Mais elle met des solutions humaines à la place. Et la chose la plus importante, c'est le pardon de Dieu. C'est pas toutes sortes de recettes. La vie de prière est de moins en moins présente aussi. C'est une église qui soit autonome, indépendante de Dieu. Donc, plus besoin de chercher la direction de Dieu pour nos projets. Plus besoin de chercher Dieu, point. On est capable. La communion entre les membres se fait de plus en plus rare. Mais là, il y en a qui vont dire, bien, on est bien trop occupé. Et la vie, elle va vite. Puis c'est vrai, là. Moi, je ne sais pas là, si c'est parce que je vieillis, là, mais il me semble que je suis le lundi, là, le lendemain, c'est le vendredi. C'est fou, là. La vie va vite. On est bien trop occupé. Mais c'est vrai qu'on est occupé. Mais on est occupé à quoi? Au juste. Parce que ça veut dire que si je suis occupé, je suis occupé à quelque chose. Je suis après faire des choses, là. La question à se poser, c'est quoi ces choses-là que je suis après faire? Est-ce que je suis centré sur la gloire de Dieu ou je suis centré sur mes projets, mes rêves, mon avenir? Est-ce que j'ai abandonné tout ça dans les mains de Dieu ou pas? Puis c'est certain là, qu'il y en a des raisons légitimes pour trouver des occupations. Là. Je ne veux pas commencer à vous dire, hey, gang de pas correct. Là. On a des raisons. Mais quand même, devons prendre le temps de nous arrêter, de nous questionner là-dessus. Comme un moment donné, le Seigneur dit dans l'Ancien Testament, il dit « Arrêtez. Arrêtez, puis sachez que je suis Dieu. » Des fois, on a besoin, on va tellement vite qu'on ne sait même plus pourquoi, où est-ce qu'on s'en va. Ça vaut à peine de prendre une pause, de s'arrêter, puis de se questionner sur « Qu'est-ce que où je m'en vais, là? » Posons-nous la question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, a la priorité? Mais malgré que le Seigneur leur dit que l'Église est morte, il va quand même les encourager. Au verset 2, en disant, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. » Parce que bien que l'Église est une Église en elle-même est morte, là, comme j'ai dit tantôt, c'est l'Église qui est morte, ce n'est pas les individus. Là. OK, il y en a qui sont, étant donné que l'Église, c'est l'Assemblée, il y en a, mais il y en a qui ne sont pas toutes morts. Là. Il en reste quand même quelques personnes à l'Église de Sardes qui sont encore en vie. Pas beaucoup, par exemple. Parce que le Seigneur continue en disant, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Je ne les ai pas trouvées satisfaisantes pour moi. Mais là, le Seigneur, il ne veut pas laisser, il ne veut pas baisser les bras, puis il continue à encourager les restes qui sont encore en vie en leur disant, comme j'ai dit tantôt, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la bonne nouvelle. C'est de quelle façon? Puis là, c'est tout le monde, là, ici, là. Là, c'est à l'Église de Sardes, mais. Moi, est-ce que vous vous rappelez la journée où je vous ai entendu la bonne nouvelle? Moi, je m'en rappelle, ça fait 43 ans, là. Puis je m'en rappelle comme si c'était hier. Jamais ça va me passer. Est-ce que vous vous rappelez? Mais là, je ne parle pas juste d'entendre, là. Cette journée-là, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu avant puis après. Avant cette journée-là, puis après cette journée-là. Mais rappelez-vous, comment vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu exactement? Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie? Déjà, Jésus leur dit ça parce qu'il savait qu'ils avaient tous entendu l'Évangile. Et que la plupart d'entre eux avaient autrefois mentionné leur désir de suivre Jésus. Ils disaient avoir fait profession de foi, mais ils n'ont pas persévéré. Ça me rappelle une histoire. Lorsque M. Alexanian était ici dans les années 80, non pas 80, quand il était arrivé ici, c'était en 2001. À l'entour de 2002, j'avais visité un homme ici à Bokiam. Que sa mère lui avait demandé de les visiter parce que Il avait été élevé d'une famille chrétienne, puis tout. Puis M. Alexénian, il avait demandé s'il était sauvé. Il dit oui. Il avait fait profession de foi à l'âge de 15 ans dans un camp de jeunesse. Là. Il avait fait profession de foi. Mais là, quand on regardait le restant de sa vie, il n'y avait rien. Après notre visite, il est venu ici deux fois. On ne l'a pas revu. Il se fiait sur cette profession de foi-là qu'il avait eue là, X nombre d'années. C'est bon une profession de foi, mais il faut qu'il y ait des actions qui soient posées après. Et ces actions-là ne doivent pas être faites de mes propres forces. Il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Jacques l'a dit dans sa lettre, il dit, « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi peut-elle le sauver? » C'est la question que Jacques pose. Si je me dis j'ai la foi, et que cette foi-là ne me pousse pas à faire certaines choses pour le Seigneur, est-ce que j'ai vraiment la foi? Puis là, il dit, moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Je vais te montrer qu'est-ce que ma foi a fait dans ma vie. Elle a fait ça. Toi, ta foi, elle a fait quoi? Ben moi, je crois. Mais c'est quoi? Les démons aussi croient, puis ils tombent. La vraie foi, là, elle va transformer le cœur de l'homme. Elle ne le rendra pas parfait, là, parce qu'on est encore dans notre chair. Oubliez ça, là. Mais elle va nous emmener dans un combat contre cette chair-là. La vraie foi va faire une transformation. La vraie foi va transformer le cœur de l'homme et il y a maintenant dans son cœur une soif de connaître Dieu. Moi, c'est le lendemain de ma conversion, je ne connaissais rien. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais je voulais de plus en plus en savoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hey, je t'apprends à me faire embarquer, là. Les baptistes, on s'apprend à m'embarquer, là. Mais j'ai cherché. Puis je me suis aperçu que les baptistes ne m'embarquaient pas. C'était le Seigneur qui était après m'embarquer. Dans sa chaloupe. Puis Dieu a dit à Nicodème, il faut. Pas dire, tu serais mieux. Ce sera ton avantage. Non. Il faut absolument que tu naisses de nouveau. Mais c'est comme si Herbe, la semence de l'Évangile qu'on voit dans Matthieu 13, était tombée dans des pierres rocailleuses. Oui. Ça avait poussé un petit peu, puis après ça, ça avait séché. C'est la raison pour laquelle Jésus demande de se souvenir des paroles qu'ils ont entendues, puis d'y prendre garde, d'y réfléchir. Moi, ça m'arrive de revenir à ma profession de foi. Bien, ma profession de foi, je dis ça. Je n'ai jamais fait de profession de foi. Je n'ai même pas fait faire de profession de foi. Je parle d'un évangéliste. Ouais. Parce que, pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'on n'était pas rendu là. Il était sûr, lui, il n'a rien compris. Fait qu'il ne m'a pas demandé, tu veux-tu, il n'a rien compris. Mais moi, ça s'était passé à l'intérieur. Je n'ai pas démontré. Je l'ai fait après, mais c'était déjà fait. Okay. Est-ce que ces paroles-là, ils ont transformé votre vie? Est-ce qu'ils ont transformé ma vie? Oui, ils ont transformé. J'étais encore pécheur, j'étais encore en combat. Mais il y a eu une transformation. Est-ce que vous vous souvenez de ces paroles? Est-elle conforme à l'Évangile? Et là, il continue, il dit, sinon, repens-toi. Considère les paroles que tu as entendues, attache-toi à elles et garde-les. Et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas vouloir te détourner de ta vieille manière de vivre puis des mauvais penchants. Et ça va faire en sorte que tu vas vouloir t'attacher à ce qui a vraiment de la valeur et de l'importance, c'est-à-dire Jésus-Christ, ton Sauveur. Est-ce qu'il y a des fruits dans ta vie? Parce que, encore là, dans Jean 15, on a beau dire qu'on est attaché au cep, mais si on n'est pas vraiment attaché au cep, on est des branches qui vont tomber à terre, qui vont être brûlées au feu. Si la sève entre le cep et le sarment ne passe pas, c'est-à-dire si la vie de Jésus-Christ ne passe pas en nous, on est mort, tout simplement, puis on ne porte pas de fruits. Et là, Jésus continue, il dit, « Parce que si tu ne te repens pas, il va avoir des conséquences. Si tu ne veilles pas, leur dit le Seigneur, je viendrai comme un voleur te surprendre, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. » Un peu comme la ville, là, il parle encore à l'Église. Et un peu comme la ville qui se croyait en sécurité, l'Église de Sardes s'appuyait sur une fausse assurance, une fausse sécurité, un faux espoir. Puis pourtant, elle passait pour être une Église en vie, mais elle était morte. C'est vrai que le Seigneur Jésus promet à ses enfants la sécurité. Dans Jean 10, en particulier Jean 10, 28, mais cette promesse s'adresse seulement à ceux qui le connaissent. Hein, il dit, « Mes brebis me connaissent. » Puis ils font quoi? Elles me suivent. Là, il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Mon Père qui est plus grand que tous, encore là, on est dans la main du Fils, on est dans la main du Père. Personne ne va pouvoir nous ravir de cette main-là. Mais c'est seulement qu'à ceux qui le suivent, qui le connaissent, pas à n'importe qui ont pensé, « Ah ben oui, je l'ai vu, ce verset-là, ça doit être à moi, ça. » Mais ce verset-là ne s'adresse pas à ceux qui veulent continuer à vivre leur propre vie, leur propre voie, qui veulent avoir leur propre avenir, leur propre projet. Puis même si le Seigneur considère l'Église comme morte, le Seigneur va leur dire au verset 4, « Cependant, à Sardes, quelques hommes, quelques individus, qui ne sont pas souillés leurs vêtements. Autrement dit, qui ont été régénérés et qui marchent dans ma vérité et qui luttent contre le péché. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Mais encore là, la raison de leur dignité, ce n'est pas parce qu'ils ont été trouvés dignes. C'est parce qu'ils ont été sanctifiés par Jésus, lavés dans le sang de l'agneau. C'est ça qui les a rendus dignes. C'est la dignité de Christ qui est installée sur eux. Le vêtement blanc, c'est un symbole de pureté. Quand le Seigneur nous regarde, il voit notre vêtement blanc. Il ne voit pas nos anciennes souillures. Il dit, je ne se souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Puis à tous ceux qui se sont repentis, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, Jésus leur dit, leur fait une promesse. Au verset 5, il dit, « Celui qui vaincra sera vêtu d'un vêtement blanc. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, qui est devant les anges. » Et ça, le nom, l'histoire du livre de vie, ça en a fait frémir plusieurs. De dire qu'il est possible d'abord que mon nom soit enlevé d'abord. Hein? Si je ne l'efface pas, ça veut dire qu'il y a une possibilité de l'effacer. Puis, Mais ce livre-là, c'est juste une image aussi, là, en premier lieu. Ça fait allusion à un registre dans lequel les membres d'une ville étaient inscrits. Et quand ils déménageaient ou quand ils étaient morts, ils étaient enlevés. Ça faisait allusion aussi à un registre qui était des membres d'une synagogue. C'est encore la même chose. Soit qu'ils mouraient, ils déménageaient, ou bien qu'ils se détournaient de la loi de Moïse. Ils étaient enlevés de ce registre-là. Et là, Jésus lui voulait rassurer en leur promettant que ceux qui vaincront, que leur nom ne serait pas enlevé de ce livre-là. Mais comme j'ai dit tantôt, l'idée d'avoir son nom enlevé du livre de vie en a inquiété plusieurs. Puis, quand on regarde dans la Bible, il y a plusieurs endroits qui parlent de livres, des livres. Les questions de livres, des livres, puis ils ne font pas tous référence à la même chose. Et le premier se trouve dans Exode 32, où Moïse demande à Dieu de pardonner au peuple, sinon, enlève mon nom de ton livre. Et là, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui pêche contre moi que j'effacerai son nom. Et là, je me dis, on a tous péché. Ça veut dire que faut tout qu'il nous efface. Mais Moïse aussi a péché. Pas avec nous autres. Moïse était pécheur comme les autres. Comment se fait qu'il n'a pas effacé son nom et dit, mais c'est celui qui a péché contre moi que je vais effacer son nom? Parce que le péché, ce n'est pas un péché, là. C'est le péché contre Dieu. Si on se rappelle bien dans Exode, là, le péché qui était là, c'était de renier Dieu, de absolument pas faire confiance à Dieu. Dieu leur avait promis d'entrer dans la terre promise, ils n'ont pas voulu y aller. Ici, il y a un livre aussi qui s'adresse au livre des vivants. Chaque être vivant est inscrit dans un livre. Et si le Seigneur ne revient pas avant, bien, nous allons tous être effacés de ce livre-là des vivants. Ce n'est pas le livre de vie, ça. Si on regarde maintenant dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, là, on se retrouve au jugement dernier, on voit que des livres furent ouverts, et un autre livre furent ouverts, qui était le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leur œuvre. Est-ce que ça s'adresse à nous, ça? Selon leur œuvre. Ça dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Il y a un autre passage qui dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, on n'est pas morts. On n'est pas des morts qui vont être jugés selon leurs œuvres. Ça s'agit du livre des personnes qui ne sont pas écrites dans le livre de vie, qui vont être écrites, qui vont être jugées selon leurs œuvres. Automatiquement condamnées. Ça veut dire que ce verset-là ne nous concerne pas. Ce livre de vie est mentionné aussi dans Philippiens 4:3 en parlant des compagnons de Paul qui ont été inscrits dans le livre de vie. Et Apocalypse 13:8 parle de personnes qui se sont prosternées devant la bête. Et toutes ces personnes, ce sont ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ça veut dire que les noms qui sont inscrits dans le livre de l'agneau sont inscrits avant la fondation du monde. Chapitre 17, verset 18, Jean parle des habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Mais tout ça sera seulement ceux qui ne sont pas trouvés vainqueurs par la force de Christ. Dans 21-27, seuls ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau vont pouvoir entrer. Seuls ceux. Et puisque les noms sont inscrits selon la préscience de Dieu avant la fondation du monde, lui connaît toutes choses d'avance, il savait, puis encore là, pas par nos œuvres, mais il connaissait d'avance ceux qui lui appartiennent. Il connaissait d'avance ceux qui seront vainqueurs. Puis le vainqueur, c'est aussi celui qui n'aura pas voulu se laisser la société non-croyante le façonner par leur pensée, par leur conduite. Et si on se retrouve lors du festin des noces de l'agneau, qui aura lieu dans la Nouvelle Jérusalem, l'épouse sera vêtue de lin pur éclatant. L'épouse, ça, c'est qui, ça? C'est l'Église. Pourquoi qu'on va être vêtu de vêtements de lin éclatant? Parce que c'est des robes qui vont avoir été lavées dans le sang de l'agneau. Si ces robes-là sont pures, éclatantes, lavées dans le sang de l'agneau, Christ nous promet. Mais attention, il faut que ça aille lavé dans le sang de l'agneau. C'est nous, c'est rachetés, qui vont être là, la Nouvelle Jérusalem, l'épouse, la cité céleste, c'est nous, ça. Et là, on peut voir qu'il y a plusieurs livres. Le livre des œuvres. Nous, les croyants, on va être jugés selon nos œuvres. Et ce ne sera pas le jugement final. Ça, c'est le tribunal de Christ. On va être jugé au tribunal de Christ, mais pas pour avoir une condamnation, pour avoir une récompense de qu'est-ce qu'on a fait de bien. Le jugement final, c'est pas nous. Jean 5, 24 dit, on ne passe pas un jugement. On est passé de la mort à la vie. On ne peut pas passer un jugement parce qu'on est mort. Un mort, ça ne passe pas un jugement, ça. Ça a été jugé d'avance. Christ a pris mon jugement. Il ne peut pas me rejuger deux fois. Pour la même affaire. C'est contre la loi. En tout cas, il y a le livre des œuvres, le livre des vivants, puis il y a le livre de vie de l'agneau. C'est lui qui est important. S'il y avait la possibilité pour nous que notre nom soit enlevé, ça voudrait dire que la Bible se contredit. Puisque Jean 10, 28 nous dit que nous sommes protégés par le Père et par le Fils. Romains 8 nous dit que rien nous séparera de l'amour de Dieu. Rien nous condamnera. Rien ne peut nous condamner. Donc, si la Bible se contredit, là, une seule fois, je te sauve donc. Mais si vous êtes convaincu qu'elle ne se contredit pas, ça veut dire que c'est impossible que notre livre, que notre nom, c'est-à-dire, soit enlevé. La seule chose qu'il faut faire sûr, est-ce qu'il est déjà là? Mais encore là, dans ce passage, on peut voir que le Seigneur Jésus, il est omniprésent. Il est partout, il est ici, par exemple, ce matin-là. Puis même quand je sors dehors, il est là aussi. Il est omniprésent, parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans chacune de ces églises. Mais non seulement ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi il connaît chacun des motifs, des intentions de l'homme. Puis dans ce cas-ci, là, qu'on a regardé ce matin, c'est l'Église de Sardes qui est mise, on pourrait dire, sur le projecteur. Puis on a vu que cette Église avait bonne réputation, qui était active au point de passer pour une Église en vie. Mais le Seigneur qui connaît les cœurs va mentionner clairement que l'Église de Sardes est une Église morte. Pourquoi? Parce que, en tant qu'Église, elle avait complètement perdu de vue ce pourquoi elle existait. Et c'est pourquoi que dans cette lettre que le Seigneur adresse à l'Église de Sardes, qu'il ne donne aucun éloge. Si vous avez remarqué, dans la plupart des autres églises, il y a des éloges, des reproches. Elle, aucun éloge, aucun compliment, seulement des reproches. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de compassion puis de miséricorde. Puis dans son amour puis sa compassion, Jésus va lui donner une occasion de se repentir parce que dans cette assemblée, il restait quelques vrais croyants. De plus, dans sa grâce, il fait une promesse à tous ceux qui ont cru, qui ont persévéré. Et maintenant, puisque nous savons que les sept églises représentent la totalité de toutes les églises, ça voudrait dire que cette lettre s'adresse aussi à nous, à notre église. Mais à nous en particulier parce qu'on fait partie de cette église-là. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de voir, pouvons-nous dire que l'église de Bokiam a des points en commun avec l'église de Sardes? Est-ce qu'elle a besoin de se repentir de cette indifférence envers Dieu? Il y a une chose bien importante. Sommes-nous assurés individuellement d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau? Mais ça, là-dessus, c'est à chacun de s'examiner, de s'interroger. Père du ciel, on veut te remercier que régulièrement tu nous donnes des occasions de s'interroger, de s'examiner, que tu nous donnes des avertissements. Même si cette lettre n'est pas écrite à l'église de Bokiam, elle est écrite à l'église de Sardes. Mais toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Et cette Église-là aussi fait partie. Par ton esprit, on te demande vraiment de nous, qu'on puisse sonder nos cœurs. Comme on a chanté tantôt, que tu puisses vraiment voir dans nos cœurs si on est sur une, si on est sur une mauvaise voie ou si on est sur la bonne voie. Continuez à nous diriger par l'aide de ta parole, par l'aide de ton esprit, par l'aide de nos frères et sœurs à l'Église aussi. Amen.